Et on parle du livre jeunesse, non pas radio, mais Radio Rosalie avec Maude Neveu-Villeneuve, Maxime Raymond, Xavier Cadieux, publié aux éditions Fonfon. Et je ne suis pas le public cible, mais j'ai été complètement charmée par cet album. Bonjour à vous trois.
Salut.
Allô.
La belle visite en studio, je suis contente de vous avoir avec nous. Est-ce que les studios radio sont des lieux que vous connaissez bien, dans lesquels vous êtes à l'aise?
Ben moi, à part des amis qui...
Maxime?
Oui, salut. à part des amis qui sévissaient à CISM, puis que... Où, donc, je suis allé un peu... c'est encore un lieu plein de mystères que j'aime bien visiter.
Oui, et puis vous, Maud?
Moi, j'avoue, mon père était chroniqueur à l'émission de Marie-France Bazot quand j'étais petite.
Ah oui?
Oui, donc il m'amenait des fois en studio.
Fait que j'ai père, un peu...
mon père, Benoît Villeneuve, il était chroniqueur scientifique.
OK.
Il venait faire de la vulgarisation astronomique. Puis c'est ça, des fois, il m'amenait en studio
avec
lui. Oui, fait que je connais quand même les studios de radio depuis l'enfance, mais j'en ai pas fait professionnellement.
Non. Et, mais vous êtes habituée à faire des entrevues puisque vous êtes autrice, vous travaillez aussi en tant qu'éditrice?
Oui, quand même. Je suis même déjà venue d'ailleurs dans ces studios-ci
deux
fois avant aujourd'hui.
Mathieu Fessing de la tête, oui. Oui, bon, je n'étais point au courant. À propos de quoi?
Mon livre « Les différences invisibles », publié chez Éco-Société à l'émission d'Élisane, dont j'oublie le nom de famille.
Pèlerin.
Voilà.
Hein, c'est ça?
L'émission s'appelait « Sans détour ».
Oui,
ou
mais
détour.
Le nom de famille d'Élisane.
Pèlerin.
Oui, et c'est toujours possible de retrouver cette entrevue-là sur notre site internet, canalem.vusevoix.com. Et Xavier, qui ne parle pas jusqu'à maintenant, vous êtes poli, oui, l'illustrateur de Radio Rosalie, vous, la radio.
Ça m'est déjà arrivé. J'ai les mêmes amis que Maxime, probablement à la même émission à TISM. Donc, oui, c'est déjà arrivé.
Alors, qui a eu l'idée de créer Radio Rosalie?
Maud et moi, dans la vie secret, on est un couple à la base.
Secret de polichinelle.
Secret de polichinelle. Puis un running gag à la maison. Maud écrit, Maud c'est l'autrice de la maison, moi je suis éditeur. Puis,
oui, vous avez co-fondé
les éditions de ta mère. Exactement. Puis souvent, quand il y a quelque chose de cocasse qui se dit à la maison et tout, la blague, c'est ça ferait un bon livre pour enfants. Idéalement, cette blague-là est utilisée quand ça ferait pas un très bon livre pour enfants, ce qui me fait encore plus rire. Mais là, on imaginait notre fille, notre plus jeune, qui parle beaucoup. On l'imaginait à la radio, comme si elle avait une émission vu qu'elle n'arrête jamais de parler. Fait que c'est un bruit de fond constant, en plus de la radio qui joue toujours chez nous à peu près. Puis on a imaginé la blague de la fin qui a fait une entrevue, puis que même après qu'elle soit couchée, elle est encore à la radio. Désolé d'avoir divulgâché. Puis là, on a fait « Ah, c'est vraiment drôle! » Puis on a fait « Attends, ça ferait vraiment un bon livre pour enfants. » Puis Maud, elle a dit « Ben, moi, je vais l'écrire. » Puis je dis « Ben, go, écris-le. » Puis Maud prend la balle.
Oui, j'en ai écrit une première version, mais après ça, je suis revenue voir Maxime, parce que je disais « Ben, écoute, à la base, c'était ton idée, tu sais, c'est toi qui a eu l'idée de la blague, puis tout ça. Fait que je pense j'aimerais ça qu'on le fasse ensemble. »
C'est
la
première fois que vous travaillez ensemble?
Oui, ben d'habitude, Maxime est mon éditeur. Quand je publie mes romans pour adultes aux éditions de ta mère, c'est Maxime mon éditeur, puis il fait très bien ça. Fait qu'on a une bonne relation de travail déjà.
Oui. Mais une bonne relation de couple aussi. Ben, on n'entre pas dans les détails.
Oui, ben oui, aussi. aussi, mais c'est ça. Donc, pour moi, c'était comme naturel de me dire comme, ah, ben on va l'écrire ensemble parce que l'idée.
C'est aussi que tu es une autrice très sérieuse, puis ça prenait...
ça prenait quelqu'un qui faisait des blagues.
Ça prenait des blagues.
C'est pas votre premier livre jeunesse,
non, Maud. C'est mon troisième.
Ah oui, troisième.
Ouais,
Est-ce que c'est pas la première fois non plus que vous publiez chez Fonfon?
Non, il y a eu Simone sous les ronces chez Fonfon en 2019.
Oui.
Puis je t'écris de mon lit aux 400 coups.
Vous auriez pu, je ne sais pas, publier aux éditions de ta mère, mais vous ne faites pas du tout
on
le livre
pas de jeunesse,
non? Puis même
de
si
toute
vous
façon,
êtes un peu coquin-taquin?
J'aurais pas voulu qu'on... je trouve que ça fait beaucoup de s'auto-publier, de travailler ensemble. Il manquait un garde-fou là-dedans puis une expertise que je n'ai pas en livre jeunesse. Fait que
ouais.
Non, ça n'a jamais été dans les plans de le faire. Là.
Bon, et Fonfon, ça a été un choix naturel? Les éditions Fonfon?
Oui, ben j'ai beaucoup aimé travailler avec l'équipe de Fonfon pour Simone sous les ronces. Puis on connaît bien Véronique, qui est la propriétaire de la maison d'édition depuis longtemps. Fait que oui, leur collection Histoire de rire nous fait beaucoup rire en général. Fait que donc, on voyait bien le livre là-dedans.
Mais on l'a vraiment envoyé sans prétention. Là. C'était un peu, hey, on a fait ça, on l'écrit en deux soirs. Si ça marche, ça marche. Puis Véronique, c'était plus comme, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose là? Mais c'était pas, on n'était pas si sûr de notre coup que ça quand on l'a envoyé.
Non, ça nous faisait rire, nous. Mais on se disait, est-ce que ça va faire rire d'autres gens?
Ouais. Mais souvent, quand ça nous intéresse ou quand ça nous fait rire, il y a d'autres personnes qui sont interpellées, là.
Si vous saviez le nombre de choses qui me fait rire, puis je suis le seul à trouver drôle.
Ah oui,
oui! J'ai la misère à être d'accord comme, avec cette affirmation.
Comme quoi, par exemple?
Je peux pas vous dire, j'ai pas d'exemple précis, mais oui, je peux rire tout oui. Je suis mon meilleur public, souvent.
Bon,
donc,
vous êtes un être particulier, peut-être.
Non, j'ai pas jusque-là.
Un humour unique, mettons.
Oui. Douteux.
Alors, Radio Rosalie, c'est l'histoire de Rosalie, qui a 8 ans, qui s'amuse à faire de son quotidien une émission de radio jusqu'à ce que la réalité rattrape la fiction. Vous avez un petit peu mentionné la chose sous une autre forme. Maxime, parce qu'on ne voulait pas dévoiler le punch, mais on le dévoile un peu quand même.
Scandale.
Franchement, on va arrêter l'entrevue.
Enlevez
ici.
Enlevez mon nom sur le livre.
Et Xavier, vous êtes arrivé dans le décor en tant qu'illustrateur. De quelle façon ça s'est passé pour vous?
Je ne sais jamais vraiment comment les gens choisissent de me faire illustrer des choses, mais souvent, il y a quelqu'un que je connais. Là, je connaissais à peu près tout le monde impliqué là, sur le livre.
Ah oui?
J'avais illustré précédemment André sur une drôle de piste. Dans la petite collection...
Les petits romans. La collection Sorbet.
Ah, c'est charmant comme
la
nom.
La collection Sorbet chez Fonfon. Donc, je connaissais tout le monde chez Fonfon. Je connaissais Maxime, Maud, juste parce que... parce qu'on travaille dans le milieu du livre et puis...
On dit que vous êtes un BDiste montréalais connu pour votre trait mou.
Oui.
Et votre humour absurde. Ça veut dire quoi, ça, un trait mou?
Pas certain. Ça, c'est moi qui ai écrit ça parce que j'étais obligé d'écrire quelque
chose. Mais je comprends, il y a une élasticité dans tes personnages. Oui. Fait que j'irais avec, comme si je voulais trouver un spin positif à trait mou, ça serait ça. Ça serait comme des personnages qui ont essayé ça. Il y a pas beaucoup d'angle droit dans ces os-là. Comme tout le monde est.
Oui.
On dirait toutes des mopettes un peu. Il y a quelque chose de marionnesque dans tes personnages.
Oui.
Et l'univers de la radio, est-ce que c'est comme un défi d'illustrer cet univers-là qui est sonore avant d'être visuel?
Oh là là, non. On dirait que... Ben, je visualise beaucoup là, ce qui se passe. On dirait qu'avec l'expérience que j'avais sur les pires moments de l'histoire...
Oui, le balado de Charles Beauchamp.
C'est ça, de passer du trait audio puis du texte... très autosuffisant, puis essayer de trouver justement là, qu'est-ce qu'on illustre là-dedans. On dirait que j'arrive là-dedans, je me suis jamais posé la question. Rosalie, elle parle, puis je vois tout ce qui se passe. De toute façon, puis avec Maxime et Maud, on avait quand même là, décidé un peu qu'est-ce qu'on allait voir dans l'image, mais je vois les images tout le temps, là, donc j'écoute la radio, puis
Ça donne bien, vous êtes illustrateur.
Oui, c'est ça.
Pratique.
Oui.
On a beaucoup travaillé aussi, quand on écrit le scénario, là, moi je savais naïvement, parce que j'avais jamais fait de scénario, je sais même pas si c'est le bon mot, mais de texte, de livre jeunesse comme ça, mais on a vraiment bâti des unités de lieu sur les deux pages. Quand on a donné ça à Xavier, ça y a permis... Le lieu était clair pour chaque situation, chaque moment de radio... avec des ellipses entre chaque moment de la journée.
Ouais.
La scène était bien campée, je pense, pour donner le maximum de jus à Xavier pour pouvoir illustrer. T'sais. Donc, que ce soit la cour d'école, le terrain de baseball, la classe, c'est des lieux vivants qui sont dans lesquels Xavier a eu du plaisir, je pense.
Mm-hmm. Absolument. Vous avez nommé tous mes lieux préférés de l'école.
Comme la cour de récréation.
La cour de récréation, le terrain de baseball, la bibliothèque.
Ah oui.
La chambre de Rosalie aussi. Quelque chose de super, super le fun d'étaler toute sa personnalité comme en un beau bordel par terre. Là, tous les objets que j'ai plantés, tous les médailles.
On parle d'un look... vintage, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qualificatif-là?
Je ne suis pas d'accord.
Ouais.
visuellement, je fais ce que je fais du mieux, avec le plus d'efforts. Je mets le plus que je peux, puis il arrive ce qui arrive. Quand même qu'au départ, je déciderais de faire quelque chose de précis. Tous ces beaux projets-là prennent de champ. Puis je peux pas mal juste faire du Xavier Cadieux.
Notre intention, tu sais, avec Xavier, notre éditrice voulait pas qu'on fasse une bande dessinée, mais on a poussé le concept de faire une bande dessinée sans que ça en soit une le plus loin possible, parce que Xavier, son langage, c'est la bande dessinée. Moi, je suis un méga fan, moi aussi, de bande dessinée. On aime ça beaucoup. Mais lire des bandes dessinées aux enfants, c'est chiant quand il y a plusieurs personnages. Là, il faut que tu fasses des voix. Puis là, les enfants se rappellent des voix. Toi, tu t'en souviens plus.
Ah oui, puis il faut suivre les bulles des différents personnages. Ouais,
non, donc,
j'adore ça.
mais donc, on y a quand même dit pousse le plus loin possible dans. Et comme si c'est une grosse case à chaque fois. Puis, mais donc, son monologue est avec des bulles. Donc, il est vraiment allé loin dans son propre langage. Il ne s'est pas adapté à un langage plus stiff d'album. Il est allé dans quelque chose de très mouvant qui est... Fait que les codes de la bande dessinée, pour moi, sont partout dans le livre puis sont intégrés au texte. Puis je trouve que comme c'est ça la saveur que Xavier a amené le plus, je pense.
Et qu'est-ce que la radio vous permettait de raconter?
Wow, en fait, la radio, c'était l'idée de la parole, essentiellement. Là, à la base, là, c'est l'idée de la parole. C'est Rosalie qui a besoin de parler de tout ce qu'elle voit et de tout ce qu'elle vit. Puis les adultes autour d'elle ne vont pas nécessairement toujours embarquer dans son imaginaire de radio. Certains oui, certains non. Mais ça nous permettait de parler de ça, de cette espèce d'imaginaire constant des enfants qui sont en train de se construire un monde, là. Moi, quand j'étais petite, j'enregistrais des émissions de radio sur mon magnétophone Fisher-Price dans ma chambre. Là.
Oui.
Puis je finissais par « Ici mon neveu Villeneuve » pour Radio-Canada. Puis je me prenais très au sérieux. Puis donc, c'est ça, c'est l'idée d'avoir un public, puis de commenter ce qu'on voit. Puis je pense que c'est comme si, à cet âge-là, Rosalie, elle n'avait pas développé son filtre encore.
Oui, Rosalie, qui est une femme, une fille libre. Vous dites que les parents ne la suivent pas nécessairement dans tout ce qu'elle propose, mais il y a un respect de sa personnalité allumée,
Oui, mais originale. Sa prof, par exemple, la renvoie se rasseoir à sa place.
Oui, oui, bon, parce qu'elle pose une question peut-être un peu malaisante.
Oui, c'est ça.
Ouais,
enfin,
ouais.
Mais je pense que les parents sont surtout fatigués, puis le petit frère a l'air encore pire.
Donc,
je pense qu'il y a une tolérance. Oui. Mais il y a quelque chose aussi aussi d'explorer le flux de conscience qu'on sait qu'en littérature, on a vu beaucoup dans les littératures plus complexes, mais il y a quelque chose où j'adore les enfants qui, tu sais que dans quelques années, ils vont réfléchir dans leur tête et ils vont avoir une pensée complexe puis critique, mais quand ils sont pas rendus, c'est qu'ils sont pas rendus à le faire juste dans leur tête. Il faut que ça sorte comme à l'oral, fait que c'est beaucoup, beaucoup de paroles, pertinents, pas pertinents, puis la radio nous a permis c'est un peu un prétexte pour cadrer cette expérience-là des enfants qui doivent, pour expérimenter leur monde, le décrire à haute voix.
Et ce qui m'a beaucoup touchée, entre autres, mais ce personnage de Rosalie, j'allais dire, je me suis identifiée parce que je suis une amoureuse de radio depuis longtemps. Et moi aussi, j'ai fait comme vous, Maud, j'enregistrais des émissions où je me prenais pour une animatrice qui s'appelait Agathe, je ne sais pas pourquoi. Oh. Et j'ai réalisé mon rêve, finalement, de devenir animatrice radio. Et il y en a une qui m'a beaucoup inspirée. Il s'agit de Valérie Letarte. Valérie Letarte, qui est décédée à l'âge de 47 ans, c'était en 2001. J'ai suivi sa carrière comme animatrice à 275 Allo, chroniqueuse culturelle. Elle était formidable. Et vous en parlez d'elle à travers un parc qui est inauguré en son hommage.
Oui, nous, on l'a connue surtout à 275 Allo, je dirais.
Oui, puis émission pour enfants.
Oui, une émission pour enfants qu'elle animait où, justement, les enfants pouvaient poser des questions. Puis bon. Puis quand on a eu l'idée d'avoir un événement où Rosalie pourrait faire un vox pop, pourrait rencontrer des gens, on a imaginé l'inauguration d'un parc. Puis là, ça nous paraissait comme évident qu'il fallait que le nom du parc soit significatif. Étant donné qu'on parlait de radio, ben ça nous a fait penser, évidemment, à les animatrices de radio célèbres. Puis, mm-hmm. On est allé vers Valérie Letarte, puisque, justement, étant décédée très jeune.
Oui. On veut un parc, Valérie Letarte, pour vrai,
oui,
là.
Oui, j'aimerais ça. Mais oui, on l'a vraiment inventé pour l'occasion. Il n'existait pas. Mais pour nous, c'était une manière de rendre hommage. Là,
oui, à cette bel hommage. Et c'est important aussi de transmettre des connaissances en plus de raconter l'histoire parce que vous parlez de femmes qui ont marqué la radio. Vous expliquez comment fonctionne le son aussi.
Oui, à la fin, dans les livres chez Fonfon, il y a toujours une petite page pédagogique à la fin. Puis donc, pour cette page-là, ce qu'on a choisi de faire, c'est de rendre hommage aux femmes pionnières de la radio. Puis, il fallait aussi, on se disait, il faut expliquer comment ça marche, parce que pour les enfants, c'est très abstrait, je pense, même pour les adultes.
Ah oui.
Puis pourtant, c'est un médium qui existe depuis super longtemps, mais souvent, on ne sait pas du tout comment ça fonctionne. Donc, moi, on trouvait ça important de rendre cet hommage-là aussi mm-hmm. au fond.
Et ça fait du bien de voir un enfant en contact avec un micro au lieu de, je ne sais pas, un téléphone cellulaire. Ou...
Oui, mm-hmm. oui, oui, c'est ça. Ça c'est le côté vintage, justement, de la radio.
Mais le livre touche à des... Il y a quelque chose d'un peu anachronique. Tu sais, si on avait voulu être dans l'air du temps, c'est un balado qu'elle aurait fait.
Ou même une vidéo YouTube.
Oui, oui, c'est ça. Mais Xavier, en plaçant justement la radio Fisher-Price dans la chambre, il l'a justement sorti un peu de l'époque actuelle. Puis avec le flash des micros, chaque page, il a choisi un micro différent.
Une banane, un coffre à crayons.
Le tube de pâte à dents, grand favori de tout le monde.
Ah oui, c'est mon préféré.
Le seul téléphone qu'on voit, c'est le prof d'éduc qui texte.
On se dit, on est où, là?
Il y a des références, on voit, mais ouais, Rosalie est comme pas intéressée par ça. C'est comme son imaginaire est plus développé, puis elle se contraint pas au téléphone. À part à la fin, quand elle dit que si on a des questions, on peut envoyer un texto à ses parents.
Bon, alors, vous avez eu une belle idée, puis ça s'est bien concrétisé parce que vous disiez au début, Maude, on n'était pas sûr là, si ça allait plaire à un plus grand nombre, mais finalement, ça fonctionne. Là, on entend parler de ce livre-là. Est-ce que vous pensez que dans les écoles, ça pourrait circuler? Bien, dans les maisons, certainement, j'espère.
Il y a des profs sur les réseaux sociaux, en fait, qui en ont parlé puis qui disent qu'ils voient plein de possibilités pédagogiques avec. Fait que moi, je suis ravie parce que, comme pour moi, je suis enseignante là, dans la vie au cégep, mais pour moi, le potentiel pédagogique des livres, je trouve ça merveilleux quand on peut en voir un.
J'adore ça que les profs disent ça parce que, disons que le potentiel qu'on voyait le plus, c'est le potentiel de bonnes blagues à chaque page. Là, on ne l'a jamais pensé comme un outil éducatif. C'était important pour nous d'être vraiment dans le... par exemple, pour nous, Rosalie, c'est un enfant qui est neurodivergente, assurément. Elle a des gros écouteurs, il y a des signes, mais on n'a jamais voulu l'appuyer parce qu'on voulait pas faire un livre sur un sujet mm-hmm. Pas dénoncer, mais comme traiter d'enjeux. On voulait pas que ça soit un livre d'enjeux, mais on voulait que des gens qui sont touchés par certains enjeux se reconnaissent et qu'on soit dans l'humour, dans les blagues et tout. Mais
c'est subtil.
C'est ça. C'est juste assez subtil parce que, ultimement, on voulait avoir du plaisir.
Ouais.
Je dis pas qu'on peut pas avoir de plaisir quand on fait des livres à enjeux. Maud le sait, elle fait des bons livres à enjeux. Mais je suis content que les profs, ça résonne puis ça dépasse juste, ça va faire rire mes élèves puis qu'ils voient un potentiel pédagogique. C'est vraiment c'est le fun.
Est-ce que vous avez d'autres projets ensemble, les trois ensemble?
Pas pour l'instant, mais on aimerait ça.
On continue à jouer, ça ferait un bon livre pour enfants.
Exact. Je sais où ils habitent.
Si tu as une idée, tu peux débarquer chez nous.
C'est ça.
Mais ça a été un plaisir de vous recevoir. Je rappelle le titre de votre livre, Radio Rosalie, et qui est dédié à la plus choupie des filouminous. J'imagine que c'est votre fille.
Notre verbomoteur en personne.
Et aussi à Cassandre.
Qui est le verbomoteur dans ma famille.
Ah oui. Bien, merci beaucoup. Puis bon succès et bonne suite. On vous réinvitera pour d'autres projets parce que ça ne finira pas avec ce projet-ci. Merci.
Merci.
Merci.